vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. En ce mois de mai 2026, il me plaît de mettre en avant de grands romans incisifs et incontournables, avec en premier « Ours » de Luc Charine. Le deuxième, c'est « Là-bas, les fleurs sont plus belles » de Jacques Bernard. Le troisième, c'est « Les archanges de la nuit » de Éric Fouassier. Je vous en ai déjà parlé de ce Éric Fouassier. « L'homme qui n'avait pas assez d'une vie » du grand Douglas Kennedy. Et puis voilà, et puis après il y aura Saint-Max de Olivier Racimi, Le pain des anges de Patti Smith, la grande chanteuse Patti Smith, roman national de Marc Brincarelli, un roman historique avec encore un autre roman historique aussi. L'épaisseur de la nuit de Nicolas Bridon. Voilà. Donc, je commence par le premier, Ours de Luc Charine, aux éditions Librinova, un gros livre, voilà, 399 pages, 24,90 €. Mais ce sera vraiment Robert Numa, détective à Bourg-en-Bresse, que l'on retrouve parce que dans son précédent ou premier livre, il avait déjà parlé de ce Robert Numa. Donc on retrouve Robert Numa, détective à Bourg-en-Bresse. Il est embarqué dans une enquête sur des agressions et des meurtres dans lesquels sa compagne Adèle est fortement impliquée. Vous verrez comment et pourquoi. Elle sera victime, comme plusieurs de ses amis, et Robert lui-même, avec des animaux, oui, utilisés comme vecteurs de mort. Je vous en parlerai un peu plus. Ses recherches le mèneront aux Seychelles et au Canada, mais au cours de l'enquête, il s'apercevra que la clé de l'énigme se situe en Laponie. Voilà, donc on voyage beaucoup à nouveau dans ce nouveau roman de Luc Charine, Ours. Une vengeance glacée. Près de 25 ans après l'effet générateur, mêlé de conflits familiaux, de traditions et de croyances SAM, S-A-M-E-S, et de croyances SAM, que l'on découvre dans ce roman, dans ce gros livre, et d'une histoire d'amour pervertie. Voilà. Oui, Ours nous entraîne aux quatre coins du monde, sur les traces de morts suspectes, difficiles à relier, comme des piqûres d'abeilles, oui, pourquoi, comment, avec des chiens agressifs, une attaque de requins. Robert Numa, dont l'esprit cartésien l'empêche de croire aux coïncidences, devra avec son équipe se remettre en question pour venir à bout du mystère. Oui, il y a un grand mystère dans ce livre « Ours » de Jacques Charine. L'auteur, Luc Charine, a voulu mettre à profit son temps libre. Il est à la retraite pour assouvir son désir de raconter des histoires, mettant en avant les lieux dans lesquels il a vécu, mais aussi ceux que ses voyages l'ont amené à découvrir ou ceux qu'il rêve d'arpenter. Tout cela, il le fait fort bien. Et nous sommes envoûtés, oui, je peux vous l'affirmer, nous sommes envoûtés par cette grande aventure. Et comme son personnage, Robert Numa, eh bien l'auteur habite dans les contreforts du Jura indinois. Voilà pour le premier livre que je voulais vous présenter. Le deuxième est aussi « Là-bas, les fleurs sont plus belles ». Jacques Bernard, aux éditions Héraclite. Là aussi, c'est un gros livre, 360 pages. Bon, moins cher, 19,90 €. Et c'est paru dans la collection Terre-Bressane. Donc on est bien encore en Terre-Bressane. Dans ce roman, Jacques Bernard nous plonge dans une vie en Bresse au temps de la Grande Guerre. Voilà, donc c'est un roman historique. Dans une ferme bressane située à Foissia, une famille paysanne vit au rythme des traditions et du dur labeur. Oui, le travail des champs, de la ferme, des animaux. Pauline, qui est l'héroïne centrale de ce beau roman, Pauline, la cadette, étouffe dans cet avenir tout tracé pour elle. Elle rêve et rêve d'ailleurs. L'opportunité de devenir comme elle est intelligente, qu'elle a été à l'école, qu'elle sait lire, écrire, l'opportunité de devenir la secrétaire du docteur Potier. Le docteur Potier, qui est aussi un autre grand personnage de ce roman, lui offre un bref espoir d'émancipation, parce qu'elle va découvrir autre chose que la ferme des parents, une belle maison avec des meubles, avec tout ça, et puis des livres, beaucoup de livres, elle pourra même en lire certains. Malheureusement, ce temps-là sera vite brisé par l'irruption, on peut parler d'irruption, de la Grande Guerre. Alors, elle a l'idée de tenir un journal. Donc, jour après jour, elle note des choses, des avis, des informations. Surtout, il y aura des bouleversements avec cette Grande Guerre. Cette guerre emporte au front ses frères, Étienne et Charles, et aussi Pierre-Émile, le fils du docteur qu'elle avait rencontré, d'accord, brièvement, mais quand même, il y avait eu un rapprochement réciproque entre les deux. Alors, bien sûr, on attend des lettres du front qu'elle puisse consigner des informations dans son journal. Ici, l'ordre des choses pour une jeune fille paysanne, c'est de travailler à la ferme, quoi qu'il arrive, soumise à l'autorité maternelle. Oui, il y a bien le père, mais il est plutôt à l'extérieur, au champ, en élevage ou dans la forêt. Ici, donc, c'est l'autorité maternelle qui prédomine et on est suspendu aux nouvelles des combats, les combats qui seront terribles. Je ne peux pas trop vous en parler parce qu'il faut lire ce roman fort, mais il y aura des traumatismes de ces combattants. Voilà. Ce qui fait que les coups du destin sont cinglants pour Pauline, qui se confie dans son journal, et ses rêves d'évasion s'évanouissent peu à peu. Mais derrière les épreuves que l'on ne peut décrire, car il faut donc lire ce roman historique, qui est vraiment bien rédigé, il subsiste une volonté de la part de l'héroïne, une volonté tenace. et la fragile espérance, d'où le titre de ce beau et terrible roman. Là-bas, les fleurs sont plus belles. D'où, voilà, comment vous verrez, qu'elle va pouvoir envisager peut-être bien un autre avenir. Voilà, que je vous laisserai découvrir. Natif de la Bresse et professeur des écoles à la retraite, Jacques Bernard, on a déjà présenté un autre de ses livres, a toujours eu la passion de l'écriture. Il puise son inspiration dans son cadre de vie, la Bresse, mais aussi avec un intérêt particulier pour les tragédies et les guerres du XXe siècle. Voilà. Donc, ce roman est un superbe roman historique. « Là-bas, les fleurs sont plus belles » de Jacques Bernard, édité par les éditions Héraclite. À lire, voilà, 360 pages, 19,90 €. Et je passe à un autre grand livre aussi. « Les archanges de la nuit » de Éric Fouassier, édité par Albin Michel, que je remercie parce qu'ils m'ont fait parvenir ce beau polar historique. Alors on retrouve dans ce roman historique, Les Archanges de la Nuit, le personnage Valentin Verne, le créateur du Bureau des Affaires Occultes. En France, on est à Paris en particulier, mais on se déplace un petit peu. Même si le titre « Les archanges de la nuit » est une provocation qui renforce l'intrigue, car celui qui connaît les archanges ne peut imaginer que ce sont des êtres de la nuit, mais plutôt de la lumière, voilà, qui nous éclaire. Là, dans ce roman, nous sommes en avril 1834, plongé dans cet avril 1834. On retrouve un homme assassiné dans le palais de la Bourse, l'un des lieux emblématiques de cette monarchie de Juillet. Voilà, la monarchie de Juillet. Qui a fait de l'argent son nouveau dieu. Et sur le cadavre, on trouve un texte aux accents prophétiques, sur son front, un symbole mystérieux, gravé au fer rouge, et dans sa bouche, un plomb fondu. L'affaire, d'autant plus délicate que la victime est un riche banquier, soutien du régime, l'affaire est confiée à Valentin Verne par le préfet de l'époque, que l'on voit bien. Et la compagne et sa compagne, Valentin Verne avait sa compagne Aglaé qui a bien sa place dans ce roman. Et toute son équipe, dont l'entourloupe, vous verrez, vous retrouverez l'entourloupe, et Tafik, le géant ukrainien, qui a une grande force et elle sera bien utile à la fin de ce roman. Ce meurtre semble s'inscrire dans une série d'assassinats commis dans des circonstances similaires. En outre, les textes sont extraits du livre d'Enoch, qui existe bien, le livre d'Enoch, et dénonce l'accumulation des richesses. Et les métaux qui obstruent la bouche des victimes, je dis que c'était du plomb au départ, mais dans un deuxième cadavre, il y aura de l'argent, du cuivre et puis de l'or. Bon. Leurs fronts correspondent aux étapes du grand œuvre, celle de la transmutation alchimique, voilà. Donc, bien des mystères dans cette grande aventure qui sort de l'ordinaire. On y rencontre des personnages historiques qui ont bien vécu à cette époque-là, comme George Sand, qui aura un rôle, mais aussi d'autres personnages historiques qui vivaient à cette époque tumultueuse. Et les archanges, qui sont-ils? Eh bien, vous le découvrirez. Des malfaiteurs, je vous en dis un petit peu. Une nouvelle enquête, c'est une nouvelle, ce livre est une nouvelle enquête de l'inspecteur Verne, génial créateur, une enquête haletante de l'inspecteur Verne, le génial créateur du bureau des affaires occultes, où la science de cette époque, tout y est vrai qui est dit. À la fin, il y a les références utilisées par Éric Fouassier, et donc tout y est vrai. Il parle par exemple du chloroforme. Eh bien, il existait déjà à cette époque. Donc, une nouvelle enquête qui flirte avec la science et flirte avec le vice et le crime. Donc, voici un très grand roman qui va vous enlever Les Archanges de la Nuit d'Éric Fouassier chez Albin Michel. 395 pages, oui, vous y prendrez du temps, 21,90 euros. Et j'aborde un quatrième roman. Merci aux éditions Bellefond, parce que j'ai pu l'avoir en avant-première, L'homme qui n'avait pas assez d'une vie, de Douglas Kennedy, qui vient donc de paraître chez Bellefond. 348 pages quand même, 22,90 euros. Il suffit d'une vie pour disparaître. Il en faut plusieurs pour trouver la rédemption. Il y aura bien justement dans ce livre, à la fin, une rédemption. Depuis le décès brutal de son épouse Anne, Andrew Tarbell, professeur de photographie en Californie, aimerait se rapprocher de son fils Jack, avec qui il entretient une relation difficile. Longtemps à la dérive, le jeune homme s'est reconverti en apprenti journaliste, dont Andrew suit assidûment les publications. Or, voici que Jacques dévoile une enquête sur une affaire de plagiat qui fait les gros titres à Hollywood. Le nom du coupable, Adam Bradford. Pour Andrew, c'est le choc, car Adam est le fils qu'il a dû abandonner d'un premier mariage quand il s'appelait encore Benjamin Bradford, dit Ben Bradford, et qu'il avait été déclaré mort dans un accident de bateau. Aujourd'hui, la vérité pourrait bien remonter à la surface. Brisant non seulement la vie d'Andrew, mais aussi celle de tous ceux qu'il croyait avoir protégés, en particulier ses deux fils qui, au fil des pages, vont pouvoir se retrouver. Dans ce terrible et très beau récit du grand Douglas Kennedy, nous sommes entraînés dans une course-poursuite effrénée à travers les paysages grandioses du Montana, loin de New York. On a été à New York au départ, mais on revient dans le Montana sur les traces d'un homme aux mille visages, insaisissable et désespéré. Avec l'art de la photographie, en toile de fond et centrale, oui, l'art de la photographie, parce que dans le Montana, cet homme qui a dû changer d'identité va découvrir vraiment l'art de la photographie en faisant des portraits extraordinaires, pleins d'humanité, que ce soit des gens qu'il rencontre dans un bar ou les pompiers, parce qu'il y aura un grand incendie, et donc il va réussir à photographier des pompiers, mais plein d'humanité, voilà. Alors, ce grand roman est traduit de l'anglais par Chloé Royer, et c'est la suite d'un roman culte qui s'appelait « L'homme qui voulait vivre sa vie », paru toujours de Douglas Kennedy, paru en 1998, et qui existe, vous pouvez le lire, c'est très intéressant à lire pour voir la construction de l'un puis de l'autre aujourd'hui, en utilisant un peu les mêmes personnages. Eh bien, vous pouvez le lire, il existe en press pocket, texte intégral, traduit de l'anglais, donc des États-Unis, par Bernard Cohen, et qui dit, l'homme qui voulait vivre sa vie. Un poste important, une vaste maison, une femme élégante, un bébé, pour tout le monde, Ben Bradford, donc on a déjà le nom de Ben Bradford, a réussi. Pourtant, à ses yeux, rien n'est moins sûr. De son rêve d'enfant, être photographe, voilà, et d'être reconnu comme un grand photographe. Il ne reste plus rien de ce rêve d'enfant. S'il possède les appareils photo les plus perfectionnés, les occasions de s'en servir sont rares. Et le sentiment d'être un imposteur, voilà, dans sa propre existence est de plus en plus fort. Voilà, donc ça vous pourrez le lire aussi, en plus donc de L'homme qui n'avait pas assez d'une vie, de Douglas Kennedy, qui vient de paraître chez Belfond, son éditeur, qui fait grand cas parce que il sera invité en France du nord au sud, même jusqu'à Bruxelles. Donc Douglas Kennedy, le grand Douglas Kennedy, revient vers vous. Allez, à bientôt, une pause musicale. Voilà, une belle musique. C'était Orfeo, une toccata de Claudio Monteverdi. Voilà. Alors, c'est vrai que maintenant, je passe à un cinquième livre qui a été écrit par Olivier Razimi. Ça s'appelle Saint-Max. C'est chez Actes Sud, dans une collection, un endroit où aller. Une bonne petite collection. Un livre plus modeste que les quatre que je vous ai présentés, 198 pages, 19,90. Mais ce Saint-Max, en fait, c'est la vie de Max Jacob, qui est né à Quimper en 1876 et qui est mort à Drancy en 1944. Écrivain, peintre français, poète français, avec un texte, le Carnet à D, par exemple. Donc, c'est vraiment très intéressant. Enfin, pour moi, je connaissais le nom, bien sûr, de Max Jacob, mais ici, là, on le retrouve, on le redécouvre. La vie de Max Jacob, qui a côtoyé à Paris tous les grands artistes de l'époque, comme Picasso, Juan Gris, Baudin, Masson, Kiki et bien d'autres. Car l'amitié doit se propager comme un feu de Bengale. Et il décide, après avoir vécu à Paris dans différents quartiers, il décide de se retirer dans le calme à Saint-Benoît-sur-Loire. Car il cherche Dieu, qui lui échappe aussitôt qu'il croit le tenir. Il voudrait se convertir au catholicisme. Lui, juif, le tenir... Le deviner Dieu en lui, sans doute, parce qu'il est partout, Dieu est partout, et que s'en approcher, c'est s'éloigner de lui. Voilà. Alors, c'est l'abbé Veil, qui est venu le prendre à la gare d'Orléans, venant en train de Paris à Orléans, et le conduire en auto à travers la campagne, une belle campagne, et puis à Saint-Benoît-sur-Loire, où il y a encore toute une abbaye, l'abbé Fleureau, les accueille au presbytère, où Max pourra loger dans une chambre à l'étage et travailler au rez-de-chaussée. Alors Max s'engage à suivre les offices, en semaine, mais aussi le dimanche et les jours de fête. La basilique fleurit et vaste et rose dans la lumière claire des vitraux. Il apprivoise le village de Saint-Benoît, ses habitants et ses commerces, parce qu'il lui faut bien manger et se nourrir, donc il va dans les commerces de Saint-Benoît pour se nourrir. C'est un petit paradis, même si le corps de Max Jacob est un boulevard à démons, voilà, qui se tiennent à l'affût. Innombrables, en terrain conquis. Il les connaît pourtant sur le bout des doigts. Ils ont pour nom orgueil, luxure, égoïsme, impatience, colère, médisance. Et on ne badine pas avec l'amour de Dieu. Donc Max parviendra à se faire baptiser, donc de trouver des prêtres à Paris. Pablo Picasso sera son parrain. Et voilà le pêcheur chrétien, blessé à tout jamais, mais renouvelé par la grâce du baptême et le pardon de Dieu. Et pour fêter sa conversion, la meilleure chose à faire est d'aller dîner à la brasserie de Montparnasse, entouré de ses amis. Véritable, voilà. Les prières du matin en exacerbent la sarabande du soir. Sa vie est une farce dont on se moque dans tout Paris. Oui, mais ça, mais pas ici, pas à Saint-Benoît, où il reçoit des amis et une belle correspondance. Et puis, Éluard va venir, lui écrit une lettre d'admiration ou de réconciliation, parce que les surréalistes n'ont jamais aimé Max. Trop pitre, girafe, cynophobe, hémisphérique à leur goût. En fait, il les a précédés de trop d'années, voilà. Et voilà le beau poème écrit par Éluard à Max. Un homme, aux yeux légers, décrit le ciel d'amour. Il en rassemble les merveilles comme des feuilles dans un bois, comme des oiseaux dans leurs ailes et des hommes dans leur sommeil. Voilà, c'est signé Éluard Amitié. Alors c'est vrai que même s'il était à Saint-Benoît-sur-Loire, il a été arrêté par la Gestapo, la police allemande, et transporté, conduit à Orléans et transporté en train à Drancy, où il est mort et qu'il a été enterré à Ivry. C'était le 5 mars 1944. Je dis que, à la grâce de Dieu, puisqu'il était converti, parce qu'il était malade, donc il a été hospitalisé à Drancy, et il est mort d'une pneumonie, voilà. Ce qui a sans doute évité qu'il soit déporté, je ne sais où, voilà. Alors, ses amis de Paris se sont bien démenés pour essayer de le faire libérer avant qu'il soit trop tard. Il y avait Cocteau qui a même fait un dessin de Max Jacob que l'on peut voir en couverture du livre Saint-Max de Olivier, avec Olivier Racimi chez Actes Sud. Il y a aussi un autre portrait qui a été fait par Christopher Wood que l'on peut voir à Quimper. Portrait fait en 1929. Alors donc, bien sûr, les amis Salmon, Morican, le jeune peintre Toulouse, mais voilà, c'est arrivé trop tard. Mais par la suite, une demande a été faite pour que Max soit inhumé à Saint-Benoît. Ainsi, les gens pourront se recueillir, le rencontrer dans ses poèmes, dans ses livres, ses peintures, où s'élève à jamais son chant, là, dans le seul vrai tombeau qui est le cœur des vivants, n'est-ce pas comme c'est beau? Le vrai tombeau est le cœur des vivants. Le cœur des vivants. Voilà. Alors je vais passer à un autre livre aussi. Le pain des anges de Patti Smith, la grande Patti Smith, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. 23 euros pour 295 pages. Un livre magnifique, avec la voix, un cantatoire de Patti Smith, qui était une grande chanteuse pop, qui rayonne dans ce récit intime, se déroulant en plusieurs temps, du berceau à l'âge mûr, la marraine puis la marraine du punk. Elle explore tout son passé dans ce livre « Le pain des anges ». Un texte remarquablement novateur, par lequel Patti Smith poursuit son œuvre autobiographique par une méditation intime sur la mémoire, l'absence, parce qu'il y aura dans sa vie, dans sa longue vie, des absences. Et ce qui nourrit une vie, voilà. Entre fragments de souvenirs et confessions, sa prose épurée et poétique se déploie sur 8 décennies, car elle est toujours vivante. Elle a plus de 80 ans de vie. En faisant dialoguer enfance et liberté, vivant et mort, oui, avec le temps, eh bien, des gens qui vivaient sont morts. Art et sacré, dans un livre de fidélité et de gratitude, d'où le titre « Le pain des anges ». À l'adolescence, elle avait rencontré 2 jeunes gens, Johnny Stahl, le premier, l'aidant à attacher de ses mains les lacets de ses patins, voilà, pour pouvoir patiner. Et puis un deuxième personnage, beau, discret, plus silencieux, mais qui va partir, Butchy Magique. Donc, elle avait reçu un nid de frelons, et qui était tombé sur elle, et les frelons, il y en a un qui était sur son cou, prêt à enfoncer le dard. Et donc, ce jeune homme, ce Butchy Magique, l'a arrêté pour qu'elle ne bouge pas. Il s'est approché et il a retiré le dard. Donc, ces 2 souvenirs importants, intact d'actes de bonté spontanée, constitue pour elle le pain des anges. Voilà. Donc, dans ce grand texte, le pain des anges, elle reparle de son enfance à Philadelphie. Elle est née à Chicago, mais c'est à Philadelphie qu'elle a le plus de souvenirs. Elle nous parle de son père, qui après la guerre est redevenu pacifique, de sa mère un peu ambiguë, vous le verrez, et de sa sœur Linda, et du jeune frère Todd, avec à la vie et à la mort, formant une fine équipe à la vie et la mort. Ce jeune frère Todd, qu'elle va protéger dans son enfance, mais si plus tard, c'est lui qui la protégera quand elle sera chanteuse. Donc, formant une fine équipe à la vie et à la mort, avec des lieux comme le champ de Thomas et le ruisseau de l'Arc-en-Ciel, qui sont leurs lieux privilégiés. Et puis, il y a Denver. Alors, Denver, c'est formidable parce que c'est la rencontre à Denver de celui qui allait devenir l'homme de sa vie. Il s'appelle Fred Smith. Elle, c'est Patti Smith. Fred Sonic Smith, né en Virginie-Occidentale, dans la cuisine de son grand-père, et oui, un ancien mineur au caractère bien trempé, car la sage-femme étant arrivée trop tard, c'est son grand-père qui l'a aidé à naître, voilà. Alors c'est sûr que sa vie d'écrivaine était plus que jamais, parce qu'elle est un écrivain, sa vie d'écrivaine était plus que jamais occultée, car elle vivait intensément le présent. Concert après concert qui sont racontés dans ce livre. Autrice, l'autrice s'effaçant devant la performeuse, la meneuse, chanteuse et musicienne, dirigeant un quarto. Je voulais, disait-elle, je voulais être libre de vagabonder, de bâtir pièce après pièce l'architecture de mon propre univers. Et c'est bien ce qu'elle a su réaliser, avec aussi beaucoup de voyages et de découvertes artistiques. Là, c'est la dernière partie, le vagabondage. Pour parvenir à Nice, dans la baie des Anges, voilà, on retrouve encore les anges, avec son fils et sa fille. C'est une vraiment très belle édition que Patti Smith, le pain des anges, le pain des anges, hors fiction chez Gallimard, avec une très belle photo en couverture, on la voit avec sa robe blanche, mais aussi à l'intérieur, vous verrez, il y a des photos ajoutées pour montrer que tout est vrai, voilà. Alors je passe à un autre livre intitulé « Roman national ». C'est de Marc Biancarelli, paru chez Actes Sud, que je remercie, car ils me l'ont fait parvenir. Un roman historique, avec cette grande question, pourquoi les hommes font-ils la guerre ? Eh oui, et on la retrouve encore aujourd'hui, cette guerre. Oui, après l'art littéraire, photographique et musical, voici la guerre. Né en 1968, Marc Biancarelli a longtemps enseigné la langue corse. Il dirige aujourd'hui les éditions Omara qu'il a lui-même créées. C'est un poète, un nouvelliste, dramaturge et romancier reconnu, célèbre. Il nous fait revivre par ce texte roman national, ce texte emblématique, une part édifiante de cette histoire corse. Nous sommes en 1564. Le bouillant condottiere San Piero d'Ornano, chef de mercenaires, débarque en Corse pour y rallumer les feux de la rébellion. Son rêve, dans une dernière chevauchée personnelle et rédemptrice, son rêve est de délivrer l'île de la domination génoise, quasi unanimement exécrée. Alors on découvre aussi d'autres personnages, ainsi le jeune paysan, Fioravante et l'indocile Catalina. Il restera de cette dernière des traces. Deux personnages que nous suivons dans cette aventure se voient ainsi entraînés comme l'ensemble de l'île dans une geste guerrière où se révéleront bien loin des rêves de liberté et des nobles aspirations collectives. les pires avec les pires atrocités et les plus viles trahisons dont est capable l'humanité. Oui, ce livre déborde la Corse, parce que c'est une réflexion universelle, sur la naissance des nations, bon, d'une nation là, mais des nations, ou sur la langue comme fondement d'un peuple, sur la manière dont les mythes se construisent. Roman naturel, ce livre, roman naturel, creuse ici, par sa langue sublime et son souffle prodigieux, la grande question du mal. Alors, et pourquoi faut-il passer par lui pour naître par le mal? Eh bien, j'espère que ce livre, roman national, de Marc Biancarelli, chez Actes Sud, 20 €, 190 pages, vous permettra de mieux le comprendre ou l'admettre. Et je passe à un huitième livre, L'épaisseur de la nuit, de Nicolas Bridon, publié par L'Incertain. Là, c'est un gros livre, pour terminer. 548 pages, 20 €, mais 548 pages. Donc je termine par un gros livre, un récit terrible, un véritable réquisitoire, voilà. Par le ton de l'auteur qui s'appelle Nicolas Bridon, et qui s'élève contre le mensonge, même dissimulé. Parce que ce mensonge, même dissimulé, comporte un risque, celui d'être mis à nu, aujourd'hui, demain, dans 50 ans, par quelqu'un engagé sur les chemins de la mémoire, qui cherche à savoir, qui cherche à comprendre, qui cherche le mystère. Ce quelqu'un, eh bien, c'est Nicolas Bridon. Voilà pourquoi il a pris ce ton de réquisitoire qui va diriger dans trois directions. Il mène ici une longue enquête minutieuse, profonde et douloureuse sur une grande période qui va des années 1930, toute la Seconde Guerre mondiale, un véritable chaos, en particulier pour les Juifs et les personnes étrangères, voilà, et le communisme. Et après, eh bien, voilà, la période d'après, voilà. C'est une spirale vraiment tragique à l'égard des Juifs, en particulier avec toutes leurs persécutions, soit de mots, soit de non-dits, soit de spoliation de leurs biens, de leur richesse. Donc il entrecroise trois destins. Il parle donc des Juifs, voilà, mais aussi d'une femme, Joliana, surnommée Babichka, qui est sa grande-grand-mère, son arrière-grand-mère. Elle est slovaque, qui, enceinte, non mariée, sa famille est catholique, sera rejetée par sa famille, et elle viendra se réfugier à Paris pour y accoucher à la maternité de Port-Royal. Mais elle est toute seule, donc elle va malheureusement abandonner sa fille, qui a quelques mois, voilà. Sa fille qui s'appelle Yolande, et qui sera mise, elle est abandonnée comme ça, à l'assistance publique, parce que Babichka, Joliana, elle doit survivre, donc trouver un travail qu'elle ne trouvera pas, donc elle retournera en Slovaquie, elle est slovaque, en Slovaquie. À cette époque, il y a une guerre un peu entre la Tchécoslovaquie et la Slovaquie qui veut se détacher. Donc, alors voici donc la première enquête, en part à plus de celle des Juifs, des anti-Juifs, eh bien c'est celle de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, Jolana, dite Babichka. Et puis, il y aura aussi l'avenir de Yolande, parce que, donc, mise à l'assistance publique, eh bien, il y a un inspecteur qui la retrouvera régulièrement et qui donnera un avis sur cette Yolande qui va peu à peu grandir jusqu'à devenir... à 20 ans, 21 ans, indépendante, et qui pourra se marier à son tour. Alors, pendant ce temps-là, Jolana, dite Babichka, va se marier avec Stéphane Oboril. Alors, vivant d'extra, de vol d'argent, répétition, de trafic. Et... par la suite, eh bien, elle va divorcer de Stéphane Oboril, qui lui va revivre aussi d'expédients. Elle va essayer d'acheter une entreprise, un grand magasin de confection, avec en plusieurs fois, voilà, à des Juifs, donc. Qui vont mourir en camp. Voilà. Donc on retrouve tout ça dans cette enquête minutieuse sur ces trois traces. Et puis donc, sa fille grandira dans le Berry, en placement, dans une deuxième famille, mais elle sera abandonnée. Et la troisième placement sera une bonne famille d'accueil, suivi donc, je l'ai dit, par l'inspecteur de l'assistance pour la voir grandir. Et une fois grande, donc à 21 ans, elle se mariera avec un agriculteur, aura une fille, Marie-France, que l'on trouve, que l'auteur a pu trouver des avis, voilà. Et un fils, Jean-Paul, qui sera le père de Nicolas Bridon, qui lui, contre toute attente, se mariera, vivra à Tours et puis ira aux États-Unis, où il va rencontrer Maya le 12 avril 2008. Il vivra à Chicago. Il est né en 1975 à La Châtre, voilà. Alors que le premier mari va pouvoir s'enfuir parce que il va être déporté, enfin enfermé dans différents camps, mais il va pouvoir, comme des soldats nazis qui vont pouvoir partir en Amérique latine, lui il ira en Bolivie. Alors c'est vrai que si d'autres auteurs comme Amouroux que j'ai lu qui l'ont raconté cette histoire de la guerre de la France et de la guerre, mais ce livre reste une brillante synthèse tant en Slovaquie, en Tchécoslovaquie, en Union soviétique, en France et dans le monde jusqu'au Japon. Voilà. Donc, L'épaisseur de la nuit, un gros livre de Nicolas Bridon, édité par l'Incertain, 20 euros, 548 pages. Voilà. Donc, ça, c'est aussi à lire, à mon avis. Voilà pourquoi je voulais vous en parler et vous le présenter. Et on peut donc terminer cette émission. Bonne lecture aux uns et aux autres. Et puis, au mois suivant, voilà, si vous en avez envie. Moi, j'en ai envie, oui. Je ne sais pas encore de quoi je parlerai, mais j'en ai envie. Voilà, à bientôt. Bonne lecture. Au revoir.